ça plutôt que le truc. Hein.
Hum?
Tu prends ça plutôt que le.
Non, c'est ça.
Ah, on l'a dit. Ok. Donc, Yud. Alors, ça se situe après que Moshe Rabbeinu ait frappé le rocher. Alors Hachem lui fait le reproche à lui et à Aaron, Ya'an lo emantem bi, puisque vous ne m'avez pas fait confiance, etc. Vous n'entrerez pas, vous n'entrerez pas en Eretz Israël.
Excusez-moi, je me demande si on avait fini le précédent, parce que le machal, par exemple, vous le rappelez qu'on l'ait fait ce machal, et par prof chez Baltol. Et du coup, est-ce qu'on va revenir sur Yann ou Minotem, parce que...
Je crois que oui.
Qu'on l'avait fait ?
À moins que je l'ai lu pour moi, mais...
La fin de Thèse, le Machal.
Bon. Quand il a vu le plaidoyer pour Aaron. Bon, on va commencer parce que sinon.
D'accord, excusez-moi.
Vechi lo amar davar caché misé. Le Midrash dit, est-ce que Moshe n'a pas dit quelque chose de plus grave que d'avoir frappé le rocher ? Chez Amar, lorsque le peuple a réclamé de la viande, Moshe Rabbeinu a dit Atson uvakar ishachet lahem u matza lahem, im kol dege hayam yasef lahem u matza lahem. Avsham ein amana vigdola mizu. Là-bas, Moshe Rabbeinu, quand le peuple a demandé de la viande, alors Moshe Rabbeinu a dit Est-ce que ça suffira ? Ils veulent des choses impossibles. Est-ce que ça suffira ? Même si je faisais la shrita de tous les troupeaux, même si on pêchait tous les poissons, etc., est-ce que ça leur donnerait de la chair, enfin de la viande, quoi, disons, en quantité suffisante ? Là-bas aussi, il y a un problème d'Emouna. D'accord ? Il aurait dû dire à Hachem, si Hachem juge que les Bnei Israël doivent avoir la viande, et ben il va leur fournir de la viande. Donc Moshe, en s'exprimant de cette manière-là, il fait comme si c'était impossible. Il dit là-bas aussi il y a un manque d'Emouna, Vigdola Mizou, et c'est un manque plus grave, semble-t-il, que celui qui l'a entraîné à frapper le rocher. Vipnema Logazar Alav Sham. Pourquoi là-bas, dans cette histoire de la viande, il n'y a pas eu de sanction contre Moshe, alors qu'il y en a une ici dans l'histoire du rocher. Alors, le Midrash dit le ma davar domé, c'est une forme de réponse, à quoi ça ressemble, la situation qu'on a, qui est la nôtre, le meler shayalo ohev. Le roi avait un favori, quelqu'un qu'il aimait bien. Vaya megis beno leven amelech vidvarim kashim velo ipid amelech alav. Alors ce favori du roi, dans leur intimité, dans l'intimité entre le roi et le favori, il disait des choses un peu dures au roi. Il se permettait certaines impudences par rapport au roi. Mais le roi ne lui en tenait pas rigueur. Le Yamim, il est arrivé une fois que Hamad déguise Bemamad Legionot. Mais un jour, il a été impudent, il était arrogant, par rapport au roi, mais en présence des légions du roi, enfin, en présence d'autres sujets du roi. Asgazar alav mita. Là, le roi l'a condamné à mort. Et ici aussi, c'est comme ça. Afkar amarlo akadosh baruch hu, le Moshe. Et ici aussi, Hashem a dit à Moshe, Arishona she'asita beini levencha. Ce que tu as fait, qui était en privé, entre toi et moi, c'est Moshe Rabbeinu quand il a dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi, et si je mets, on ne peut pas leur fournir autant de viande qu'ils n'en veulent. C'était complètement privé, c'est Hachem, Moshe qui s'est adressé à Hachem. Hachem n'a pas été makpid ici, il n'a pas tenu rigueur. Arshav, keneged arabim, et maintenant devant tout le monde, Yevchar, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas laisser passer. Shenemar lehagdishini le'einei bnei Israël. C'est la fin du verset qui dit Ya'an lohe'eman tembi, puisque vous ne m'avez pas fait confiance, lehagdishini, pour me sanctifier, le'einei, aux yeux des bnei Israël. Donc il y a une différence ici entre le public et le privé, si on veut. Alors, il y a ce problème-là, il existe dans toutes les situations. Toujours une différence entre ce qui est de l'ordre du public, du privé, parce que quand c'est public, alors il y a une dimension Chilul Hashem, profanation du nom divin en public. Enfin, le nom divin, il n'est profané halakhiquement que si on fait une faute contre Hashem devant 10 hommes adultes juifs. C'est ça un chil ou la chaîne. Alors, c'est pas. Oui, enfin, il y a Maritain, mais là-bas, et dans les casse-routes, c'est aussi quand quelqu'un fait quelque chose publiquement. Il y a pas pour revenir à cette différence qu'on voulait faire. Non, mais ici, il y a une dimension, effectivement, de faire une faute publique. Le roi peut difficilement passer par-dessus. Il est obligé de jouer son rôle de roi. Et donc, le vrai Chilul Hashem, c'est toujours devant un minyan de juifs. Le Chilul Hashem halachique, il n'existe qu'avec des juifs. Ce que nous, on appelle c'est un Chilul Hashem, en vérité, c'est pas le halachique. Il y a un Chilul Hashem, la conduite de tel et tel juif, etc., devant des goïms. Ça, on appelle ça un Chilul Hashem, mais c'est halakhiquement, ça n'a pas la dimension de Chilul Hashem.
Et c'est ça comme dimension.
Alors ça dépend, si ça génère de la haine, par exemple, alors c'est interdit à ce titre-là. Par exemple, si à la suite de cette conduite-là, il va y avoir un pogrom, alors c'est effectivement, les choses sont interdites, ça s'appelle Mishum Eva, pour ne pas générer de la haine ou à l'égard du clan Israël. C'est en général ça qu'on appelle Eva, c'est-à-dire ça fait de l'antisémitisme, quoi, quelque part. Mais halakhiquement, le Chilul Hashem, c'est seulement devant des juifs. Ils ont fait un kiddush Hashem.
Alors,
non, mais ça c'est pas, c'est par rapport à eux-mêmes. Donc kiddush Hashem, c'est par rapport à soi-même. Donc kiddush Hashem, c'est par rapport à soi-même. C'est soi-même. J'ai l'occasion de sanctifier. C'est, j'ai pas besoin de.
Ils l'ont fait en pensant que c'est un kiddush Hashem de
renier. Alors ça dépend. Par exemple, il y a des, parce que il y a encore une autre dimension qui est que en période de xérot, en période d'interdiction de pratiquer la Torah, alors n'importe quoi devient très grave. C'est-à-dire, si les juifs, la Gemara dit, si les juifs ils avaient l'habitude de mettre des chaussures à lacets jaunes et les goïms des chaussures à lacets rouges, un juif il n'a pas le droit de changer la couleur de ses lacets en période de Shemad, en période où on essaie de nous empêcher de pratiquer la Torah. Alors, dans ce cas-là, il y a, c'est pas qu'il, oui, c'est qu'il y a une mitzvah. C'est pas qu'il faut, n'est-ce pas? C'est une mitzvah. C'est un il faut, mais c'est pas, c'est. Oui, mais c'est le. Si on le fait pas, c'est, on n'a pas transgressé un issou. Et la faute, qu'on, par exemple, dans les cas où, par exemple, si on dit à quelqu'un, si on dit à Yaakov, tu. Yitzhak, sinon on te tue, toi, et qu'il est faible et qu'il tue, lui tue, Yaakov tue Yitzhak, il n'est pas passible de mort parce qu'il est anus, il a agi sous la contrainte. Il a raté l'occasion de faire une mitzvah assez, une mitzvah positive qui consistait à se laisser tuer plutôt que de tuer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une mitzvah assez. Une mitzvah positive. Mais si jamais il transgresse, parce qu'il n'a pas eu la force de se laisser tuer, la transgression, elle a eu lieu bonnes, évidemment. Elle a eu lieu sous la contrainte. Donc, comme toute transgression qui a eu lieu sous la contrainte, elle ne vaut pas vraiment transgression. Non, non, pas toujours.
Quoi? Il sert à rien de contraindre.
Le Yetzer Hara, lui, il ne fait pas partie des contraintes. Et c'est la contrainte standard.
Non, mais moi, je pensais particulièrement aux conditions forcées qui ont eu
en Espagne. Oui. Oui. Alors
où certains ont refusé et ont été tués à cause de leur.
Parce qu'à ce moment-là, il y avait un interdit de pratiquer la Torah. Ils ont refusé, ils ont fait un Kiddush Hashem en faisant ça. Ils ont fait le Kiddush Hashem. C'était l'époque de Shemad, ils voulaient, puisqu'on pouvait se convertir pour s'en sortir. Alors, ne pas se convertir à ce moment-là et risquer et se faire tuer, c'est mourir à le Kiddush Hashem.
Mais se convertir pour ça, se faire tuer, c'était pas.
Mais si ils s'étaient convertis, ils n'ont pas été idolâtres au sens plein du terme, ils ont été sur la contrainte. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Le problème, c'est si tu avais la possibilité de partir.
Tuer,
oui. Non, mais quand c'est, je vous ai dit, quand c'est Shemad, alors c'est. Quand c'est une tentative d'empêcher les juifs de faire la Torah, hein, alors on n'a plus besoin de cette dimension de 10, etc. Que ce soit Ril Lachem. C'est Yarok Ve'aliaver, Yarek Ve'aliavor, on n'a pas besoin de 10 personnes ici. C'est Shemad. regarderai tout le portrait. Rambam. Bien, alors ça c'est cette remarque donc sur le Kiddush Hashem, sur la différence qu'il y a entre effectivement ce que Moshe Rabbeinu a dit en privé à Hashem et ce qui s'est passé en public. Yud Alef, de nouveau Yahan Loeman Tembi, etc. Zeshamara Katuv, le pasuk dit dans Kohelet dit Yesh Hevel Asher Nasa la Aretz Asher Yesh Tzadikim Asher Magia Elehem Kemaase Arshaim Veyesh Reshaim Shemagia Elehem Kemaase Hatzadikim. Amarti Shegam Zeh Hevel. Alors quel exemple il prend? Il dit, vous savez ce dont il s'agit, on y reviendra, mais ce qu'il est en train de dire, il dit, il y a des choses vaines, on traduit, mais Hevel, c'est de la buée. Quelque chose qui ne tient pas. Quelque chose que, comme la buée. Finalement, ça se dissipe. C'est quoi? C'est que sur terre, il y a des tzadikim qui reçoivent ce que normalement ne devraient recevoir que les rechaim, que des méchants. Et à l'inverse, des méchants qui reçoivent ce que les tzadikim devraient recevoir. C'est le problème du mal, de tzadik veralo et racha vetovlo. Et il dit, alors, Kohelet, Shlomo HaMelech dit, Amarti, Shegamze, ça aussi c'est de la buée, c'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est rien? Atamotse, tu trouves, Shekilel Tanachash, quand Hachem a maudit le serpent, Amarlo, il lui a dit Ahurata. Lo inicho liton klum. Il n'a pas laissé le Nachash argumenter. Shayala Nachash lomar lifna kadosh baruchu ata amarta la adam lo tochal vani amarti lo echol zma ata mekaleni. לא הניחו לטעון כלום. ואהרון היה לו לומר, לא עברתי על דבריך. למה אני מת? למדרש ici, il revient sur ce qu'on avait dit avant les vacances, justement, sur ce dernier morceau là du tête. On dit, mais pourquoi est-ce que Aaron est puni? La main n'est pas à Aaron. Hachem avait dit seulement à Moshe. Voyomer Hachem el Moshe, Yahan Lohem Antembi. Il lui dit, il s'adresse à Moshe et il dit, mais Emantem, il inclut Aaron. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Alors on revient sur ce problème-là. On dit que Aaron aurait dû normalement dire, mais moi je n'ai pas transgressé tes paroles, tu ne m'avais pas donné d'ordre. Alors il dit, ben on voit justement que quand est-ce que Aaron c'était un tzadik, a priori. Et il ne l'a pas laissé parler, comme il n'a pas laissé parler le Nahash, qui lui était un rachat. Bon, le Midrash met en avant qu'Hachem n'a pas laissé le Nahash s'exprimer. Il n'a pas laissé argumenter. Et de la même manière, il n'a pas non plus laissé à Aaron argumenter. Qu'est-ce que... C'est ça que le Midrash apprend de... C'est ça la situation qui est décrite par Shlomo HaMelech. Alors on va voir qu'est-ce qui est Evel là-dedans. C'est-à-dire, pourquoi c'est Evel? Regardons d'abord les commentateurs là. Je prends l'Aïd Yosef d'abord dans la page Tav Samar Gimel. Il dit Loï Nicho Piton Klum, il ne l'a pas laissé argumenter. Chez Kafatz ou Pasak Dino Miyad. C'est-à-dire qu'il a tranché le din, il a jugé le serpent sans lui laisser le temps d'argumenter. Hachelota Anhu. Et qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Ben, il aurait pu dire, mais tu lui as dit de ne pas manger, moi je lui ai dit, Vani amarti lo echol, et sous-entendu, divrei harav et divrei talmid, divrei mishomim, qu'est-ce que tu veux de moi? Quand quelqu'un il reçoit un ordre du maître et un ordre de l'élève, ben, il doit obéir au maître, évidemment. Donc, moi je ne me suis pas... Moi... Je suis pour rien si lui il n'a pas écouté ce que le maître a dit, ce que toi tu lui avais dit. Donc pourquoi est-ce que tu me maudis alors que c'est lui, c'est l'homme qui aurait dû ne pas m'écouter. Et le Marzou dans la colonne de gauche, il dit Ifnemai Nicho Tzivuyecha. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont suivi moi, ils ont abandonné les ordres que toi tu leur avais donnés? Les paroles du maître, les paroles de l'élève, quelles paroles doit-on écouter? Et là, Al Shaya Racha, Mesit, Madiach, Loinicholiton Klum. Comme le Nahash c'est un méchant, il voulait faire tomber les gens, faire fauter, etc. Du coup, on ne l'a pas laissé argumenter. Or, voilà que Maché Igyal Anachash Aracha, Igyal Aaron Atzadik. Or, Aaron, qui est évidemment un tzadik, lui, il est traité comme le Nachash, lui non plus, on ne le laisse pas argumenter. Alors, si on revient à l'introduction de ce paragraphe, c'est ce verset de Kohelet. Yan le'eman tembi. Alors, le Midrash dit Zé chez Amar Akatou. C'est ce que le verset a dit. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce que le verset a dit? Ce qui s'est passé là, le Eman tem, c'est-à-dire de condamner Aaron également, sans lui laisser le temps d'énoncer, de présenter ses arguments. Moi, j'ai jamais rien fait. Pourquoi est-ce que je meurs? Je suis pour rien dans cette affaire. Alors, lui, Kohelet, il dit là-dessus que Gamze Hevel, ça aussi, c'est de la buée. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est de la buée? C'est le leitmotiv de en français on dit vanité, les vanités, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Pardon?
C'est la base de
Kohelet. C'est Kohelet, oui. Mais en fait, c'est. Il ne faut pas traduire vanité, c'est. Hevel, c'est la buée. Même si on disait vanité, ça veut dire c'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire c'est rien? Il y a un bonhomme qui est en train de mourir pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le recours, enfin, ou le passage par ce verset de Kohelet? En quoi est-ce que c'est éclairant? Le problème qui est posé, on a vu, c'est le traitement du tzaddik comme le rachat, comme un rachat. On devrait dire ça, c'est une injustice, non? C'est pourquoi c'est considéré comme Hevel. Est-ce que Hevel ici veut dire, ben, tu vois bien que on n'arrive pas à donner du sens aux choses?
Oui, parce que ça monte de chez
Pierre. Pardon?
Le monde aussi est un monde de chez Pierre. Donc, on est ça ou ça, on est bien pour la main.
Mais non, pourquoi? Parce qu'il était messite madiar, parce que on lui applique à un messite madiar, c'est celui qui essaye de qui incite les gens à fauter, on le traite pas normalement, on lui donne pas toutes ses chances. Bon, il est quasiment condamné tout de suite. Un bonhomme qui se contente pas, c'est pas lui qui faute. Il veut faire fauter les gens, on le condamne. Sans lui donner toutes ses chances, si vous voulez, d'un procès équitable, etc. Ben là, on pourrait dire, ben c'est parce qu'il est messite madiar, parce que c'est tellement grave, etc. Mais on voit très bien que ça ne tient pas, puisque c'est appliqué de la même manière à Aaron, qui lui était même, non seulement il n'est pas messite madiar, mais en plus Aaron est un tzaddik. Comment se fait-il que Aaron soit puni pour... Le Midrash dit bien que Aaron aurait pu dire, mais moi j'ai rien fait, j'ai pas transgressé ta parole. Alors ça veut dire on juge le tzaddik qui a rien fait, comme on juge non seulement celui qui a fait du mal, mais celui qui a fait le mal, qui le disqualifie complètement pour avoir un procès équitable. Alors ce Midrash-là, qui lui, justement, reste en disant que c'est Hevel, il ne pense pas comme vous dites. On va voir par la suite si on ne veut pas dire un peu quelque chose dans le sens de ce que vous dites vous maintenant. Mais ce Midrash qui dit c'est Akol Hevel, c'est Gamze Hevel, je pense que bon, ça non plus, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire ça ne tient pas la route, il n'y a pas de raisonnement qui tienne la route. Comme de la buée, tu crois que tu as fait quelque... Ah voilà, il se passe quelque chose, tu fais un dessin avec de la buée et tout, puis après, bon, tout s'en va. Tout disparaît.
C'est quoi tout disparaît?
Bah, tout ce que tu as dessiné avec de la buée, par exemple, ça s'en va.
Oui, est-ce que ça ne symbolise pas le passage de notre arrivée dans ce monde-ci?
C'est possible que...
On a l'impression d'en faire beaucoup de choses, puis finalement, c'est rien, puisque...
Bon, mais c'est pas ici, on dit pas qu'il a rien fait au sens où il a rien produit. Mais on a l'impression que d'avoir été tzaddik, ça n'a servi à rien en tout cas. Ça n'a pas changé le jugement qui est porté, la façon dont il est condamné, etc. On va dans le sens d'une condamnation pour rien.
Du de l'extérieur, pas du de lui-même, par lui-même.
Lui, Aaron, il aurait pu dire ça. S'il peut le dire devant Hachem, c'est qu'il le pense, même par rapport à lui-même. Oui, mais justement, mais lui, il dit, le Midrash ne dit pas que. Il ne met pas l'accent sur le fait que le rachat, ça se passe bien pour lui. D'accord. Evel, ici, ça veut dire on traite de la même manière le rachat et le tzadik. C'est ce qui se passe. On traite le Nahash et Aaron de la même manière. On ne te laisse pas t'exprimer. Tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas justifier ton attitude. Même le Nahash, il aurait pu justifier son attitude. C'est-à-dire que même le Nahash, la raison pour laquelle il reçoit la klala, n'est pas non plus défendable. Parce qu'il avait un très bon argument. Son argument, c'est pas moi qu'il fallait écouter. Entre mes paroles et les paroles d'Hachem, c'est évidemment les paroles d'Hachem qu'il devait écouter. Pourquoi tu me maudis, moi, alors que mes paroles, devant les paroles d'Hachem, elles ne font pas le poids. Alors, est-ce que on est aussi dans un problème de paroles qui font ou qui ne font pas le poids ici avec Aaron? Aaron aurait pu dire Ayalo Lomar lo avarti al dvarecha. Je n'ai pas transgressé tes paroles. Pourquoi est-ce que je meurs? Le Nahash, il a dit le contraire de la parole d'Hachem. Aaron, il n'a pas dit le contraire. Il n'a pas ni fait ni dit quoi que ce soit. Vous allez entendre ici que la parole du Nahash par rapport à la parole divine, c'est rien, c'est de la buée, c'est rien. La parole du Nahash, elle n'a pas de durée par rapport à la parole divine. Justement, rien. C'est ce que le Nahash dit. Entre tes paroles et les miennes, comment se fait-il qu'ils aient choisi les miennes? C'est incomparable. Et alors maintenant, pourquoi est-ce que Aaron, lui aussi, on le traite comme le Nahash, c'est-à-dire on ne le laisse pas parler? Quel argument il aurait pu produire? L'argument, comme je vous ai dit, enfin, que vous avez devant vous, lo avarti al dvarecha. Je n'ai pas transgressé tes paroles. Et donc, pourquoi est-ce que je mourrais? Le Nahash dit, pourquoi est-ce que tu me maudis, moi? Moi, j'y suis pour rien, s'ils n'ont pas écouté ta parole. De manière, si tu apportes une réponse, ce sera de la buée.
Non. Le sens de la mission est le suivant, à savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas explicables comme de l'être humain.
C'est ce qu'il dit. Quand on dit à col la velle, quand. C'est ça, on a l'impression qu'on va dans ce sens-là. On va dans le sens du Nora Lila, c'est-à-dire que quelque part, il fallait que Aaron n'entre pas en Eretz Israël, ni Moshe Rabbeinu, point barre. Pardon?
l'idée que par rapport à Hachem, c'est pas de dire qu'il y a une injustice, c'est ça, c'est vraiment le fait. Parce que c'est, ça ne veut rien dire. C'est une façon que Hachem fait. Comme si on laissait en suspens, comme si il y avait eu une injustice, finalement, de leur finir en. Mais ça ne veut rien dire pour.
Il y a quand même quelque chose d'insupportable dans l'idée que quoi qu'on fasse, ça changerait.
Mais est-ce que ça veut dire quoi qu'on fasse, ça ne change rien? Ici, on n'est pas dans la situation de quoi qu'on fasse, ça ne change rien. Sauf, à, tu veux dire par rapport à la mort, de toute manière, on meurt. Oui, mais ici, il ne meurt pas. Il meurt pas de. Parce qu'ici, il ne meurt pas de mort naturelle. Ce n'est pas qu'Aaron était trop vieux, il n'est pas entré en Eretz Israël. On lui dit, tu vas mourir parce que vous ne pouvez pas. Vous, Moshe et toi, vous n'êtes pas capable de diriger le peuple en Eretz Israël. Donc c'est pas vous qui allez les faire entrer. Vous êtes disqualifiés. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a un midrash qui est à deux endroits, il est dans Parchat Re'eh et dans Parchat Bereshit. C'est ce fameux midrash qui dit, je ne sais pas ce qu'Hachem préfère entre la conduite des tzadikim ou la conduite des reshaim. Quand la Torah dit Hashem Vayar Elokim Metaor Kitov, Hashem a vu que la lumière était bonne, alors de ce verset je déduis que Hashem préfère le côté lumière, il préfère les Maasim des Tzadikim. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est que cette histoire, on ne sait pas si Hashem préfère les Maasim des Tzadikim ou des Rechaim. J'ai entendu de mon maître, on y voit pas. Après, on a vu dans un cours de sur le Lechem, qui était écrit dans le Lechem aussi, que le pshat dans ce chazal, c'est le suivant. Tout le but du monde, c'est de sanctifier Hachem. Le monde a été créé, l'Ichvodi, Hachem, c'est pour ma gloire que je l'ai compte. La fonction du monde, c'est de servir à la sanctification du nom d'Hachem. Sanctification du nom d'Hachem, ça veut dire montrer la toute-puissance d'Hachem. Alors, il y a deux façons de montrer la puissance d'Hachem. C'est ou bien en obéissant à la loi d'Hachem, ou bien en transgressant la loi d'Hachem, mais en étant puni pour avoir transgressé cette loi. Et le Midrash dit que il existe un point de vue d'Hachem, si on veut regarder, comme on disait en son temps, le point de vue de Sirius, ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de différence. De toute manière, le nom d'Hachem est sanctifié. Qu'il soit sanctifié par l'obéissance de l'homme, ou sanctifié parce que quand l'homme transgresse, il est sanctionné, ça revient au même. Alors, je ne sais pas. Hachem dit, choisis la vie, dans Parchat Re'eh, où il dit, la lumière, c'est mieux. Pour toi, c'est mieux. Hachem nous dévoile que bien que les deux débouchent sur un Kiddush Hashem, une sanctification d'Hashem, je préfère que vous choisissiez cette voie-là. La voie douce, en fait, c'est une voie comme ça. Et donc, Yallo et Mantem Bila Agdisheni, vous ne m'avez pas sanctifié, sous-entendu par la voie que je vous avais suggérée, alors de toute manière, il va y avoir sanctification. Par la sanction du fait que vous ne. Que vous allez être, enfin, vous allez être sanctionné parce que vous ne l'avez pas fait.
Et là, c'est la
même le tzaddik aussi. Le tzaddik, il sauf, il dit moi j'ai pas transgressé. Mais semble-t-il, tu étais dans cette situation où, pour l'instant, il y a l'argument de Thierry qui va venir après. Mais semble-t-il, il y a un problème du shachen, du voisin qui est touché en même temps. Que celui qui doit être sanctionné. Enfin, il y a cette fameuse halakha qui dit que quand vous savez, il existe dans la Torah nigei batim, il existe dans la Torah des negaim qui frappent les maisons. C'est ce que j'appelle la lèpre des maisons. En français, on dit maison lépreuse. Bon, c'est, mais halakhiquement, maison lépreuse. C'est une maison qui présente des signes d'impureté. Et après un certain processus, éventuellement, il faut détruire la maison au sens où il va falloir déconstruire la maison, pierre par pierre, quoi, quelque part. Et la Gemara dit, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a une maison qui est citoyenne avec la maison d'un tzaddik? Enfin, je sais pas... On sait pas, c'est pas très clair pour quelle faute il y a la sanction de Nigé Batim. C'est très connu que les Negaïm sur le corps humain viennent à cause du Lashon Hara. Alors, certains disent que les Nigé Batim viennent sur Tsarut Ha'Ayin, sur le fait d'être radin. Si quelqu'un. On lui demande, tu peux me prêter ça? Il dit non, j'en ai pas. Il ne veut pas prêter. Alors Hachem enverra la Negaïm et on va devoir, toute sa maison, elle va être sur la. Elle va être au vu et au sud de tout le monde. Tout le monde verra qu'en vérité, ce qu'il a dit hier, tu sais, j'en ai pas. Bon, voilà, si, voilà, tu en avais, tout le monde le verra. Donc celui qui est Tsar Ha'Ayin, c'est-à-dire celui qui est radin, il ne veut pas prêter. Chose, eh bien, la sanction c'est nigué batim. Enfin, c'est une explication. Enfin, c'est une explication sérieuse, quoi. C'est chazal. Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a donc une maison mitoyenne, soit un mur mitoyen? Alors, on va casser le mur. Qu'est-ce qui se passe avec le voisin? C'est son mur à lui aussi. La Gemara dit oi le rachat. Oy le shreno. Malheur au rachat et malheur au voisin du rachat. Il faut savoir à côté de qui on s'assied, à côté de qui on prend une maison, etc. La Gemara, elle dit que les Nekiyeh Hadat, Nekiyeh Hadat d'Yerushalayim, les gens qui faisaient attention à eux-mêmes, alors qu'on faisait à Yerushalayim, ils n'allaient pas dans un repas de fête ou etc. sans savoir à côté de qui il serait assis. Il ne voulait pas se retrouver assis en mauvaise compagnie. Donc il demandait à côté de qui est-ce que je vais être assis. Et si on n'est pas assis à côté de quelqu'un dont on est sûr qu'il ne va pas nous entraîner à faire du Lashon Hara ou des choses comme ça, il n'allait pas. Il n'allait pas. Parce que oi le rachat, oi le shcheno. Donc ici, Aaron était en tout cas le shachem de Moshe Rabbeinu. C'est un peu ce qui est écrit dans la tête en haut. Celui que Chaim Meir voulait qu'on refasse là. On n'a pas fait. Exprès. Bon, les quatre lignes de la fin, c'est Amarlo, alove imani chayav meshcheni machata. Si moi je suis fautif, mais mon voisin, quoi, est-ce qu'il a fauté? Alors Moshe Rabbi nous dit, ok, moi j'ai mal réagi, mais Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire, effectivement, Aaron, il n'a rien fait de mal. Mais il est le chachen de Moshe. Et ça, c'est cette buée-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, le racha ou le chachen. On ne dit pas le chachen, il a été aussi mauvais, sinon il ne serait pas assis. On ne dit pas le chachen, il n'est pas intervenu alors qu'il aurait pu intervenir. C'est comme ça. Il y a des problèmes de voisinage. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est le voisin. On n'y est pour rien, mais voilà, ça nous touche. Alors c'est peut-être ça le problème. Et pourquoi on ne l'a pas laissé être Tohen? Parce qu'il n'y a rien à être Tohen. Il n'y a pas d'argument. L'argument, c'est pas que tu as fait une faute. L'argument, c'est, à la limite, tu étais dans une situation de laquelle il devait sortir un Kiddush Hashem. Parce que Kiddush Hashem, il va sortir. De toute manière. Ça pouvait être par et avec toi, et sinon, ben, c'est contre toi.
Je ne sais pas pourquoi le tzadik qui est à côté du voisin, donc il vit la carrière.
Oui. C'est un Kiddush Hashem parce qu'on voit la toute-puissance d'Hachem. Hachem fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que je t'ai invité à être partie prenante là-dedans. C'est toi qui fais le Kiddush Hashem. Tu n'as pas voulu le faire, alors Hachem fait les choses. Il y a une halakha comme ça. C'est marqué dans la Torah, c'est surprenant. C'est écrit, si quelqu'un... Je crois que c'est sur... Si quelqu'un passe ses enfants par le molaire, il les passe au feu, c'est une pratique idolâtre. Je crois que là-bas, c'est marqué que tous les gens doivent l'en empêcher. Et il faut l'attraper, il faut le juger, il faut l'empêcher de faire ça. Et si la, et c'est marqué, dans le pasouk c'est marqué, et si la communauté ne s'en occupe pas, alors moi je demanderai des comptes à celui qui s'en est pas occupé en quelque sorte, et à toute sa famille. La famille, elle a, qu'est-ce qu'elle a là-dedans? Pourquoi tout à coup, Hachem dit en quelque sorte, si tu as fait quelque chose, bon, tu peux faire toi-même. Et sinon, c'est plus grave. On est beaucoup plus touché dans ce cas-là. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, alors la famille aussi elle est touchée. Oui, bon, mais ça. Oui. Bon, mais ça, c'est. Il y a des conséquences, ça veut dire, jusqu'à la troisième génération. Ça, c'est connu, c'est un principe général, les parents qui boivent et les enfants qui trinquent. C'est. Il y a une histoire.
Mais non, on voit bien des gens qui sont mariés à un instrument, tu vois, parce que eux, ils font pas, ou leurs enfants font, tu vois. Alors c'est pour ça que les enfants font. Les enfants, on leur dit très bien.
Ouais, des fois, bien, mais des fois, hein, les enfants, ouais. c'est... Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est.
Ça sera
pour
Oui, ça ressemble un peu à la Egla Arufa, parce que dans la Egla Arufa, on a une procédure de secours en quelque sorte. Il y a du sang qui a été versé. Vous connaissez, la Egla Arufa, c'est on trouve un cadavre et on ne trouve pas le meurtrier. Alors on va mesurer la distance du cadavre à la ville la plus proche dans laquelle il y a un Sanhédrin. Et on va attribuer en quelque sorte ce cadavre à la ville la plus proche. Et les anciens de la ville vont venir, ils vont se laver les mains, ils vont dire, Yadenu lo shafru et adamazé. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Ça veut dire, cette personne-là, elle n'a pas passé dans notre ville et on l'a renvoyée sans lui donner à manger, sans lui donner à boire, sans lui accorder une escorte, etc. Non, il n'est pas passé chez nous. Et c'est tout. Et avec cette déclaration-là, et avec la Egla Arufa dont on va briser la nuque, etc., toute cette procédure-là, on va faire en sorte que le sang innocent qui a donc été, le sang qui a été versé, ne devienne pas un sang, ne reste pas un sang de violence. Et on considère que le sang, c'est comme un engrais pour la terre dans laquelle ce sang est versé. Et donc, si ce sang est un sang de violence, alors ce qui va pousser, on va faire pousser la violence en quelque sorte. Alors, si on trouve le meurtrier, ça arrête la procédure. Ça arrête le. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Ah, rien. Mais si on n'a pas trouvé, alors il va falloir travailler directement sur la terre, justement avec une terre dans laquelle on ne peut rien entrer, puisque ça va être justement une terre très qui n'absorbe pas, etc., et on va briser la nuque, etc. Toute cette procédure-là, elle a pour but d'empêcher la terre de se nourrir de ce sang de violence et de faire pousser des graines de violence, en quelque sorte. Là-bas, il y a une violence, et si on ne fait pas par le biais du jugement du meurtrier, alors on doit le faire par la procédure de la Egla Arufa. C'est ça que vous vouliez dire, Thierry?
Oui. Cette procédure-là est violente pour l'animal, puisqu'il s'agit quelque chose de hors d'ordre.
Tout à fait. C'est pas une shrita.
Justement, c'est pour ça que c'est une violence qu'on lui fait à l'animal. Donc vous dites, non, on va supprimer la violence par une violence.
Supprimer la violence, on traite la violence par la violence, si tu veux, de cette manière-là.
Oui, c'est ce que je comprends.
Parce qu'on la transfère sur un animal. Exactement comme dans un corban. Normalement, on devrait se faire violence à soi-même, on fait la violence sur un animal. Non. On considère que cet endroit-là, il doit rester un endroit. Bon, voilà, on l'a stérilisé en quelque sorte, cet endroit, complètement. Mais on a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit vraiment stérile. Et qu'il. En tout cas, si jamais on venait à planter quelque chose, ce ne serait pas de la violence qui allait pousser. La Torah, elle a une drôle d'expression. Elle utilise là-bas une expression qui veut dire vous ne flatterez pas la terre avec ce sang. C'est une flatterie, mais comme on dit que quand on flatte quelqu'un, on le fait grossir, quoi, quelque part. Donc vous n'engraisserez pas la terre avec ce. Comme vous n'engrosserez pas la terre, si on parlait comme ça, avec ce sang. Le sang, c'est un engrais, oui, c'est clair. Il y avait des rites en Roumanie, des rites païens, où les femmes qui avaient les règles, elles allaient dans les champs pour que le sang coule et fertilise la terre. La reine l'otaviu. C'est la raison pour laquelle vous n'amènerez pas les Bnei Israël en Eretz Israël. Machal lema davardome. À quoi ça ressemble? Ishte nashim chez le code de Beddin. Ce sont deux femmes qui reçoivent les makotes au Beit Din. Achat kilkela ve achat achla pagei shviit. Amra lahem ota she achla pagei shviit bevakasha mikem odiu labriot al ma ani loka. Shelo yomru af ani kilkalti. הביאו פגי שביעית ותלו עליה. ואמרו, זו קלקלה ולקטה, וזו אכלה בגשבית ולקטה. אף כך, אמר משה, אמר משה רבינו, הרי גזרת עליי למות במדבר, עם הדור הזה שהכעיסוך. שנאמר, כמה יאמרו במדבר, יעציבו בשמעון. ועכשיו יאמרו לדורות שאני כמותם. יכתב עליי על מה נענשתי. לפיכך כתב, יען לא האמנתם. semble-t-il le midrash le midrash il a un problème. Il veut savoir pourquoi la faute de Moshe Rabbeinu est-elle mentionnée dans la Torah. Alors le midrash répond, c'est Moshe Rabbeinu qui voulait qu'elle soit mentionnée, parce que de facto toute la génération de Moshe ne va pas entrer en Eretz. Mais eux, ils n'ont pas entré pour des raisons extrêmement graves. À cause de l'histoire des explorateurs qui a réveillé le problème du veau d'or. Alors Moshe Rabbeinu nous dit, mais tout le monde va dire que moi je suis comme eux. Alors je veux que tu dises quelle a été ma faute. Il demande à Hachem de bien vouloir dire quelle a été sa faute. Et on prend un exemple de deux femmes qui reçoivent, pourquoi c'est des femmes, peu importe. C'est deux femmes qui reçoivent des makotes, l'une parce qu'elle s'est vraiment mal conduite, question de mœurs, et l'autre parce qu'elle a mangé des fruits de la Shemitah qu'on n'avait pas le droit de manger, des figues de Shemitah qu'on n'avait pas le droit de manger. Alors celle qui reçoit des makotes parce qu'elle a mangé des fruits de la Shemitah qu'on n'avait pas le droit de manger, elle demande à ce qu'on publie pourquoi elle est frappée, que les gens ne s'imaginent pas qu'elle est frappée pour la même raison que l'autre qui, elle, est frappée parce qu'elle a une conduite inacceptable. Alors du coup, on lui a amené un collier de figues, je ne sais pas, on l'a mis autour du cou, là, pour que tout le monde sache que c'est pour cette raison-là qu'elle est frappée et pas pour d'autres raisons. Alors, il y a tout un problème parce que normalement il y a quelqu'un qui est machriz, qui publie pour quelle raison on frappe quelqu'un. Donc quelqu'un il a des makotes, on annonce. Semble-t-il, d'après ce midrash, j'ai l'impression qu'elle c'était pas suffisant qu'on l'annonce. Elle voulait qu'on le voit en permanence que avec son collier en quelque sorte. On voit sans les gens qui n'entendent pas, etc., ils voient tout de suite. Il y a quelque chose de spécial avec cette histoire de figues, qu'on voit clairement quel est son problème. Pour quelle raison ? Une raison qui est sans commune mesure avec la raison pour laquelle l'autre reçoit des makotes, mais parce que justement, avec le système des makotes, il y a une forme d'injustice. Si on reçoit les mêmes makotes pour quelque chose de grave, quelque chose de bien moins grave. Enfin, si les peines était proportionnel à la faute, il n'y aurait pas de problème. Mais justement, c'est la non-proportionnalité à la faute qu'il y a dans le système des makotes. Cette chose-là, elle n'existe pas, en tout cas pas complètement dans le système des peines de mort. Dans les peines de mort, puisqu'il y en a quatre différentes, avec une hiérarchie de ces peines de mort, alors on voit bien que si on a celle-là ou celle-là, on ne va pas confondre. Mais ici, étant donné que sur la transgression d'un lave, simplement tout le monde reçoit les mêmes makot, 39 coups, alors il y a un problème de la même sanction pour tout le monde. Alors il y a le problème du même, en quelque sorte, ici, qui unifie, enfin qui met dans le même panier. Des choses qui ne sont pas du tout semblables. En soi, ça pose problème. Donc, Moshe Rabbeinu a demandé qu'il y ait qu'il y ait un commentaire, qu'il y ait une explication. Que ce soit bien clair dans la Torah, pourquoi lui, il n'entre pas en Eretz Israël. vérité, c'est très ambigu tout ça. Parce que pour quelle raison est-ce que les autres ne sont pas entrés en Eretz Israël? Ils n'ont pas fait confiance à Hachem. Pas tout le monde. Toute la génération de Moshé. Les explorateurs là qui vont.
Oui, mais il n'y a pas que. Tout le monde n'est pas rentré, alors qu'il n'y a pas une
Et tout le clan, mais tout le clan d'Israël qui a suivi les explorateurs, Hachem a été gozer, et aucun d'entre eux, sauf Yoshua, Bin Nun et Caleb, n'entrera en Eretz Israël. Et donc c'est aussi un problème de. On pourrait presque dire la même chose. Vous ne m'avez pas fait confiance en me sanctifiant, en entrant en Eretz Israël, parce que je vous ai dit que c'était bien, même si. Il y avait des géants, même si vous aviez peur, même si, enfin, si vous pensiez qu'il y avait de raison d'avoir peur, etc. Donc à la limite, c'est vrai que c'est pas la même raison, mais on pourrait presque même mettre les mêmes mots sur Moshé Rabbeinu. Bien sûr que c'est pas le cas sur ce que l'histoire de Moshé Rabbeinu et sur l'histoire des explorateurs. Vous comprenez, c'est Mais on peut manquer d'émouna à l'égard d'Hachem de plusieurs manières. Parce que dans la émouna, dire ne pas avoir émouna, c'est aussi beaucoup se mettre toutes sortes de situations sous le même chapeau, comme dans les makotes. Parce qu'à un certain niveau, au niveau de Yosef, c'est un manque d'émouna de demander à les chansons de dire un bon mot pour lui, un paro. Alors que pour monsieur tout le monde, ça faisait partie des obligations quasiment. Bien sûr, si tu viens de rendre service à ce type, il va être là où il y a un moyen de te sortir d'affaire. Comment ne pas lui demander d'intervenir ? Un manque d'émouna. Mais c'est pas la même chose qu'un autre manque d'émouna. Chacun à son niveau, il a ses manques d'émouna. Avraham Avinu qui a inventé la émouna quasiment, ben il manque d'émouna. Quand Hachem lui dit qu'il va recevoir la terre, etc., il demande Bamaïda. Il a demandé un signe. Non, on dit, puisque tu n'as pas d'émouna comme du seul fait que je te parle, alors on va faire tout le circuit, tout le détour par l'Égypte. Donc, on est à la fois dans Moshé Rabbeinu par rapport aux autres, à la fois dans ces deux femmes, dans l'émouna comme les makotes, de ce point de vue-là, elles ont le défaut. Parler comme ça, d'être un mot qui ne rend pas compte de la gradation. Si on avait donné au moins, je ne sais pas moi, un nombre de makotes différents, mais on donne à tout le monde 39 makotes. Les gens qui ne reçoivent pas 39 makotes, c'est parce qu'ils ont le médecin a évalué qu'ils ne pouvaient pas les supporter. Même s'ils encourent 39 makotes, éventuellement, on ne peut pas leur en donner plus qu'une, ou trois, ou etc. On ne peut pas leur donner plus que trois. Ils auront trois makotes sur les 39. Parce que le médecin a dit qu'ils ne peuvent pas supporter plus. C'est ça le problème. Si on obtient ma cote de toute manière, pour les petites comme les grandes fautes, si ça s'appelle manque d'émouna, un grand manque d'émouna ou un petit manque d'émouna, alors on a toutes sortes de problèmes ici. Voilà, on va s'arrêter là.
Sur le carré, sur carré. Faut appuyer sur carré.
Carré d'abord.
Non, sur carré ici.
Ah.
Voilà. C'est bon. Bon, ça c'est bien.
Ah oui. Celui-là, tu peux.
Oui, je peux modifier la
modifier la balance.
Mais c'est vraiment bien, hein. J'ai découvert un truc qui est sur l'autre aussi. Ah, en fait, c'est pas fait.